Les cours du Collège de France, Isabelle Ratier, chaire Histoire des systèmes de pensée de l'Inde.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour ce premier cours qui est consacré à l'histoire des systèmes de pensée de l'Inde. Alors, la semaine dernière, j'ai dit pourquoi je crois qu'on ne peut pas étudier les systèmes indiens en se contentant de dresser une sorte de tableau statique de l'ensemble des dogmes qui ont pu être défendus par chaque école. Pourquoi ? Parce que ces systèmes, en constante rivalité, se sont développés, élaborés dans un dialogue des uns avec les autres et des uns contre les autres. Et le but de ce cours, c'est précisément d'essayer de comprendre comment ils se sont développés autour de grandes controverses qui ont façonné l'histoire de la philosophie et des religions du sous-continent. Alors, pour commencer la série de ces cours, j'ai choisi de vous parler cette année de la querelle indienne relative à ce qu'on appelle le soi. Et le soi, c'est un mot qui traduit le plus souvent le terme sanskrit Atman, sur lequel je reviendrai longuement. Nous verrons que, en fait, plusieurs grands problèmes ont été formulés en Inde à propos de ou autour de cette notion du soi. Mais enfin, la question fondamentale du soi, c'est d'abord la question: qu'est-ce qui en nous résiste au changement? Qu'est-ce qui dure en nous, en dépit du fait que tout paraît inéluctablement soumis au changement en nous, notre corps évidemment, dont nous ne cessons de constater les modifications pour le meilleur et surtout pour le pire, et puis aussi nos relations aux autres, nos activités, nos émotions, nos convictions, nos manières de réfléchir, enfin, toutes choses qui ne cessent de fluctuer. Alors, qu'est-ce qui en vous et en moi demeure le même, si bien qu'en dépit de ces constantes altérations, nous pouvons légitimement nous penser comme la même personne que nous étions hier, la même personne que nous étions il y a 20 ans et la même personne que nous serons demain. Ce qui dure en nous et ce qui, parce que ça constitue notre essence, nous permet de demeurer nous-mêmes, eh bien, c'est précisément ce que les penseurs indiens appellent le soi. Mais évidemment, lui donner un nom, ce n'est pas le définir, encore moins l'expliquer ou prouver son existence. Le soi, c'est d'abord une question. Et c'est la question de notre identité. Qui sommes-nous réellement ? Mais c'est aussi celle de la subjectivité, parce que nous avons tendance à considérer spontanément que c'est le mot « je » qui désigne ce qui dure en nous et ce qui constitue notre essence véritable. Mais que dit vraiment ce mot « je » ? Et qu'est-ce que c'est que de dire et de penser « je » en se posant comme un sujet capable de penser des objets qui, eux, ne sont pas capables à leur tour de se poser comme des sujets et de se penser sous la forme du « je ». Et puis, ce questionnement sur le « soi » est bien entendu un questionnement sur le rapport entre identité et subjectivité. Est-ce que être « soi », c'est simplement être capable de parler et de penser à la première personne ? Est-ce que notre identité se résume à notre identité, à notre égoïté, ou bien est-ce que notre conviction d'être un « je » ou un « moi », ça n'est pas ce qui cache en réalité notre véritable essence, ce n'est pas ce qui nous empêche de la saisir. Est-ce que le « moi » ou l'ego n'est pas le masque derrière lequel se cache le « soi » ? Et comment se cache-t-on des choses à soi-même ? Et comment en particulier peut-on ignorer ce qu'on est soi-même ? Alors, à m'entendre évoquer toutes ces questions, qui sont profondément indiennes, Je suppose que vous vous dites qu'en fait, ce questionnement sur le soi n'a rien de bien particulièrement indien, parce que si vous avez suivi, même distraitement, autrefois un cours de classe, pour classe terminale au lycée, et même si vos souvenirs sont un peu lointains, vous savez que les interrogations que je viens d'évoquer ont aussi été formulées en Occident, des Grecs jusqu'à nous. Vous savez qu'en Occident aussi, on s'est étonné de ne pas savoir clairement définir ce qui est pourtant le plus familier en nous. En Occident aussi, on a présenté l'entreprise philosophique comme un effort pour se connaître soi-même. On a trouvé que « je » est un autre, on a soupçonné qu'il n'est qu'une construction ou une projection qui cache autre chose. Le « soi », en Occident comme en Inde, est manifestement un illustre inconnu. Il va donc vous sauter aux yeux, en tout cas je l'espère, que la philosophie indienne a très souvent eu les mêmes objets que l'occidental, et qu'il y a des thèmes foncièrement universels à cet égard. Il y a des choses au sujet desquelles les êtres humains ne peuvent pas s'empêcher de s'interroger, d'où qu'ils viennent et quelle que soit l'époque à laquelle ils vivent. Et le soi est certainement l'une de ces choses. Si vous connaissez un tant soit peu l'histoire de la philosophie occidentale, donc vous ne manquerez pas de trouver la controverse dont il va être question ici, très familière à certains égards, et pourtant, je crois que vous la trouverez aussi très dépaysante, parce que en Inde et en Occident, on n'a pas eu tout à fait la même manière de formuler les questions à l'égard de ce thème universel, et ces questions qui ont été énoncées un peu différemment ont permis l'élaboration de réponses elle-même singulière et originale, des réponses qui sont proprement indiennes. Alors le soi est l'un des rares thèmes de la philosophie indienne qui bénéficie d'une bibliographie abondante. Elle n'est pas du tout exhaustive, celle que vous voyez ici. C'est même peut-être le thème qui a fait l'objet du plus grand nombre d'études. Alors si le soi est une telle tarte à la crème, pourquoi commencer par là l'exploration des systèmes philosophiques indiens? Pourquoi revenir à une notion déjà bien défrichée par les historiens quand tant d'autres controverses méritent notre attention parce qu'elles n'ont pas encore fait l'objet d'une étude d'ensemble? Je crois qu'il y a plusieurs bonnes raisons de commencer par là notre exploration. D'abord, la querelle sur le soi est certainement caractéristique de la démarche philosophique indienne en ce qu'elle est inséparable d'une attention soutenue au phénomène de conscience. Et cette controverse permet de mesurer d'emblée, je crois, la dimension profondément phénoménologique de cette démarche philosophique indienne, c'est-à-dire le fait que les penseurs indiens s'efforce d'observer et d'analyser de façon systématique les manières qu'a la conscience de se présenter à elle-même. Alors ce souci phénoménologique, associé à cette démarche foncièrement introspective, en ce qu'elle cherche à découvrir la nature du soi, a souvent été compris comme conduisant inévitablement à une forme d'idéalisme radical, c'est-à-dire à l'idée selon laquelle, en fait, l'univers entier n'existe qu'à l'intérieur de la conscience, un peu comme la conscience d'un rêveur qui se manifeste comme un monde d'objets et de sujets distincts du rêveur et existant hors de lui, alors qu'en fait, ce monde rêvé n'est rien d'autre que la conscience même du rêveur. Cette idée que le caractère phénoménologique et introspectif de la pensée indienne est inséparable de l'idéalisme, est très répandu dans les introductions à la philosophie indienne, par exemple dans l'introduction que vous voyez là à une célèbre anthologie de Radhakrishnan et Moore. Et il est vrai que l'Inde a inventé non pas un, mais plusieurs systèmes qui sont profondément idéaliste, au sens où il proclame que l'univers n'existe pas hors de la conscience. Et chercher à comprendre les discussions indiennes sur le soi nous mènera certainement à la question de l'idéalisme, parce que certains systèmes ont compris le soi comme l'essence non seulement de tout individu conscient, comme vous et moi, mais en fait comme l'essence de la totalité de l'univers. Cela étant dit, je dois vous mettre en garde dès à présent contre la tentation de voir dans cette attention soutenue aux manifestations de la conscience une sorte de propension systématique à l'idéalisme. Parce que l'idéalisme n'est pas du tout une opinion consensuelle en Inde. L'idéalisme est une controverse. Que le monde existe à l'extérieur ou seulement à l'intérieur de la conscience, c'est l'une des grandes questions qui ont divisé les intellectuels indiens. Et beaucoup d'entre eux ont affirmé avec force la réalité de l'univers hors de la conscience. Et vous verrez que ceux qui défendent la réalité du monde hors de la conscience ne sont pas les moins prompts ni les moins habiles à analyser les phénomènes de conscience. Donc il ne faut pas confondre la démarche profondément phénoménologique des philosophes indiens avec une sorte d'adhésion aveugle à l'idéalisme absolu. Par ailleurs, quand je dis que la bibliographie consacrée à l'Atman, au soi, est considérable, il ne faut pas en déduire que tout a été dit sur le sujet, mais plutôt que relativement à la plupart des autres controverses indiennes, Pour une fois, nous disposons d'un certain nombre d'études fiables sur certains aspects de la querelle. Ça tient en partie au fait que cette querelle a mobilisé toutes les grandes traditions philosophiques indiennes. Elles y ont toutes pris part, si bien qu'on a publié un assez grand nombre d'études qui sont parfois et même souvent très pointues et qui ont été consacrées au soi dans telle tradition, chez tel auteur et même parfois dans telle œuvre très spécifique. Du coup, commencer l'exploration des systèmes indiens en suivant cette controverse sur le soi a cet avantage de nous permettre de nous familiariser assez rapidement, je crois, avec l'ensemble de ces systèmes. Alors c'était déjà, dans une certaine mesure, l'ambition d'un livre de Michel Hulin, qui s'appelle « Comment la philosophie indienne s'est-elle développée ? La querelle brahmane-bouddhiste ». Alors, je vous recommande la lecture de cet opuscule, je crois qu'il constitue une bonne entrée en matière. Il porte sur la controverse sur l'Atman, même si ça n'est pas évident de le deviner à la lecture de son seul titre, c'est bien le cas. Je précise que c'est à mon avis un ouvrage très utile à condition de garder à l'esprit qu'en dépit de ses très grandes qualités, il est discutable, et il a été discuté sur deux points en particulier. D'une part, pour ce qui concerne la chronologie, et notamment l'acte de décès philosophique du bouddhisme indien. Michel Hulin affirme que l'œuvre du bouddhiste Shantarakshita, qui a été composée au 8e siècle de notre ère, est le véritable chant du cygne du bouddhisme philosophique en terre indienne. Ce n'est pas vrai. Beaucoup de grandes œuvres philosophiques bouddhiques ont continué d'être produites sur le sous-continent au moins 400 ans après. D'autre part, le livre de Michel Hulin donne un bon aperçu de la richesse des débats qui ont opposé les partisans et les détracteurs du soi, entendu comme quelque chose qui dure en nous en Inde. Mais, comme je l'ai déjà signalé la semaine dernière, il faut se méfier d'une vision très binaire, d'une vision très duelle qu'on a trop souvent de ces débats. Or, cette vision binaire, elle est déjà évidente dans le sous-titre du livre, la querelle brahmane-bouddhiste, et elle ne se dément pas au-delà de la couverture. Alors, cette dualité, je le mentionnais au cours de la leçon inaugurale, imprégnait déjà la très belle présentation par Madeleine Viardot, dans les années 60, du mouvement dialectique de la pensée indienne, et je crois qu'il faut chercher à la nuancer fortement. Michel Hulin a certes raison de montrer l'importance cruciale de l'opposition entre des penseurs brahmaniques, dont nous allons voir qu'ils sont profondément attachés à l'idée du soi, à l'idée de quelque chose qui dure en nous, et puis penseurs bouddhiques, qui vont récuser cette idée parce qu'ils pensent que rien ne dure. Mais la querelle du soi ne s'est pas réduite à un affrontement entre deux camps, l'un bouddhique et l'autre brahmanique, parce que, alors il faut certes s'entendre sur ce qu'on appelle au juste le brahmanisme, et je reviendrai dans un instant sur cette question terminologique épineuse, mais quoi qu'il en soit, du côté des partisans du soi, en fait, on a une très grande diversité d'écoles qui ont des manières remarquablement différentes et souvent incompatibles de comprendre ce qu'est le soi. Et ces écoles se reconnaissent dans des traditions religieuses différentes. Alors certaines d'entre elles peuvent être dites brahmaniques, mais pour beaucoup d'autres, le lien avec le brahmanisme est, disons, au moins beaucoup plus lâche, beaucoup plus distant. Je crois donc qu'il importe de revenir sur cette querelle qui est fondamentale pour l'histoire de la pensée philosophique en Inde, en essayant de comprendre davantage la multiplicité des points de vue de ceux qui y ont pris part. Alors le problème quand on aborde pour la première fois cette multiplicité de points de vue, c'est qu'il faut bien reconnaître qu'elle s'offre d'abord à nous sous la forme d'une jungle inextricable d'écoles différentes et ce n'est pas facile du tout de s'y retrouver. Alors essayons d'abord de comprendre selon quel grand parti pris sotériologique s'organisent les différentes écoles. Il y a dans l'Inde ancienne et médiévale, des courants qui sont décrits aujourd'hui comme étant hindous ou brahmaniques. Et je vais revenir dans un instant sur ces étiquettes dont je vais contester la pertinence pour plusieurs raisons. Mais quel que soit le nom générique qu'on donne à ces mouvements, et en dépit du fait qu'ils ont les uns avec les autres des divergences très profondes, ils ont en commun d'admettre le principe fondamental suivant, le salut passe par la connaissance du soi. Parce que, selon ces courants, il y a de la souffrance. Il y a une souffrance qui est existentielle. Vivre dans le monde, c'est éprouver une souffrance qui est liée à la nature même de l'existence humaine et à sa finitude. Mais cette souffrance, qui est en quelque sorte toujours déjà donnée avec l'existence, n'est pas inexorable. On peut y mettre fin si on met fin à sa cause. Alors pourquoi souffrons-nous donc ? Eh bien, selon ces systèmes, nous souffrons parce que nous nous méprenons sur ce que nous sommes réellement. Nous confondons notre essence permanente, nous confondons ce qui nous constitue réellement, le noyau de notre identité, avec des éléments qui, en réalité, nous sont extrinsèques, extérieurs, adventices, et qui sont éminemment corruptibles. Alors nous nous prenons d'abord et avant tout pour notre corps, alors qu'il est en constante métamorphose et qu'il est voué à s'abîmer, à vieillir, à mourir, mais nous nous identifions aussi à notre statut social, à nos humeurs, à nos affections, à nos répulsions, et même à notre intellect, toutes choses qui ne sont pas moins sujettes à l'altération et à la dégradation que notre corps. Et c'est parce que nous nous identifions à ces éléments qui sont pourtant transitoires que nous sommes voués à souffrir, et non seulement nous sommes voués à souffrir, mais nous sommes voués à répéter cette souffrance dans ce qu'on appelle le samsara. Alors ce mot de samsara désigne le cycle de la transmigration, le cycle des renaissances, mais évidemment c'est aussi le cycle des re-souffrances et des re-morts. Et la croyance en l'existence de ce cycle perpétuel va se répandre sur le sous-continent. Alors la date fait l'objet d'un débat, mais en gros, à partir du milieu du premier millénaire avant notre ère environ, même si certaines traditions vont admettre ce principe et s'y intéresser beaucoup plus tardivement que d'autres. Et le samsara, le cycle transmigratoire, est compris comme étant sans commencement, mais pas nécessairement sans fin. On peut s'en échapper. Et les différents courants qui s'efforcent de s'en extraire vont proposer des méthodes très différentes pour y parvenir. Alors certains pensent que pour ça, il faut attendre de mourir. Pas pour s'abîmer dans le néant, parce que l'idée n'est absolument pas de tendre à la fin de toute existence, mais plutôt pour accéder à une forme d'existence meilleure que celle du cycle transmigratoire et en particulier exempte de douleur. Et puis d'autres pensent qu'on peut se libérer de la douleur en cette vie même et qu'on n'a pas besoin d'attendre la mort pour ça. Mais tous ces mouvements ont en commun de considérer que se libérer de la douleur existentielle et se libérer du samsara, c'est d'abord et avant tout acquérir la conscience claire et pleine de ce qu'est le soi et de ce qu'il n'est pas, et cesser de les confondre. Le bouddhisme, quant à lui, est certes convaincu qu'il y a une douleur existentielle, c'est même ce qu'on appelle la première vérité sainte du bouddhisme, tout est douleur, sarvam dukkham. Mais selon le bouddhisme, la racine de la douleur, ce n'est pas le fait que nous confondrions notre soi avec ce qu'il n'est pas, c'est au contraire notre croyance même en l'existence de quelque chose comme un soi. Si nous souffrons et si nous répétons constamment cette souffrance en transmigrant, c'est parce que nous nous berçons de l'illusion qu'il existe en nous quelque chose d'immuable, quelque chose qui serait davantage nous-mêmes que nos états transitoires. Selon les bouddhistes, nous nous accrochons à l'idée d'un « je » et d'un « mien », un et permanent, au lieu de reconnaître que rien ne dure, pas même ce « nous » que nous tentons vainement et douloureusement de figer en une essence immuable. Par conséquent, du point de vue bouddhique, la seule voie de libération sensée consiste à mettre en œuvre ce qu'on appelle l'antidote au poison de la croyance au soi, et cet antidote consiste à cultiver en toutes circonstances l'idée de l'impermanence universelle et de ce qu'on appelle le nairatmya. Nairatmya, c'est un substantif abstrait sanskrit qui est formé sur l'adjectif niratman. Niratman, ça veut dire qui est sans atman, qui est sans soi. Et donc le nairatmya, c'est le fait d'être sans soi, littéralement, qu'on traduit parfois par l'insubstantialité. Alors voilà donc la ligne de partage fondamentale, celle qui, dans cette controverse, va opposer le bouddhisme à presque toutes les autres grandes traditions philosophiques indiennes. Et maintenant que nous avons tracé cette ligne de partage fondamentale, il faut très vite compliquer ce schéma qui est beaucoup trop simple pour correspondre à la réalité, parce que, comme vous le savez, la réalité se laisse rarement enfermer dans de jolis schémas. Parce que, pour commencer, dans le bloc des partisans du soi, à gauche de l'écran, les choses ne sont pas aussi simples que je viens de le dire. Alors commençons par examiner qui se trouve là, au premier millénaire de notre ère. En répondant à cette question, je vais faire exactement tout ce que j'ai promis de ne pas faire, à savoir un tableau statique des différentes positions doctrinales. Alors ce n'est pas le but de ce cours, parce que nous allons apprendre progressivement à connaître les différentes écoles au fil des controverses auxquelles nous nous intéresserons, et nous allons le faire par la voix des auteurs indiens eux-mêmes. Mais pour pouvoir nous lancer dans cette aventure, je crois qu'il est quand même utile de vous donner aujourd'hui une sorte de boîte à outils terminologique minimale et de dire quelques mots préliminaires sur chacun de ces mouvements. Alors évidemment, il va y avoir un effet pénible d'accumulation de termes de la langue sanskrite que pour beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez sans doute pas. Je ne doute pas que ça sera très intimidant et ça risque de vous donner l'impression que vous n'y comprenez rien, mais il ne s'agit pas pour vous d'essayer de retenir d'emblée tous ces termes ou même de comprendre d'emblée exactement ce à quoi chacun d'entre eux renvoie. Il s'agit seulement de vous donner une idée de la diversité des acteurs en présence, acteurs que nous apprendrons ensuite à connaître dans les séances suivantes. Parmi les partisans du soi, il y a ce que les manuels d'introduction à la philosophie indienne vous présenteront comme les six systèmes. Et par ce mot de système, ces manuels traduisent en fait le terme darshana. Darshana, ça veut dire littéralement quelque chose comme la vision, le fait ou l'acte de voir. Alors les manuels vous diront qu'il y a six darshana et que ce sont les six systèmes de l'hindouisme ou du brahmanisme. Et ici, il me faut faire une série de mises en garde. D'abord, sur cette notion de darshana, parce qu'on vous explique dans beaucoup de livres d'introduction à la philosophie ou même aux religions de l'Inde que les darshana sont différentes visions du monde ou différentes perspectives sur le monde qui, quand elles sont prises ensemble, constituent collectivement la pensée hindoue ou brahmanique. On vous dit que ces systèmes, ces visions du monde se complètent mutuellement et qu'elles forment un tout harmonieux, et on vous dit qu'elles ont paisiblement coexisté pendant des millénaires. Tout ceci est extrêmement problématique. Il est vrai qu'on trouve dans divers textes médiévaux des listes de darshana dès le 8e siècle au moins, mais leur nombre et l'identité des systèmes retenus dans ces listes ont énormément varié. Et en fait, la classification qu'on vous présente aujourd'hui comme canonique dans tous ces manuels ne remonte pas au-delà du XIIIe ou du XIVe siècle, et elle ne s'est sans doute pas imposée avant le XVIe et peut-être même le XVIIe siècle. Il faut donc se méfier de cette liste qui est très tardive, et il faut se garder d'y voir des éléments qui constitueraient un tout homogène. Dans les classifications les plus anciennes, par exemple, le yoga et le Vedanta, qui vont devenir des éléments très importants de cette liste, sont absents. Par ailleurs, ces listes anciennes comprennent souvent le bouddhisme et le jainisme, deux religions qui, en fait, se sont directement opposées au brahmanisme, ce qui montre bien que ces darshana n'étaient pas compris comme appartenant à une même religion, qui serait le brahmanisme ou l'hindouisme. Par ailleurs, dire que ces darshana constituent la pensée hindoue, c'est un problème. Pourquoi ? Ce qu'on désigne aujourd'hui comme l'hindouisme est l'une des grandes religions du monde, et l'hindouisme comporte aujourd'hui une indéniable unité organique, en dépit de sa grande diversité interne et en dépit de l'absence d'un clergé unifié. Mais cette unité de l'hindouisme est le fruit d'une très longue histoire, d'un long processus d'unification qui s'est étalé tout au long du deuxième millénaire de notre ère. Alors, n'en déplaise à certains, ce processus a commencé bien avant l'arrivée des Anglais en Inde, et il n'est certainement pas, comme on l'a parfois insinué, une simple construction coloniale, mais au premier millénaire de notre ère, l'hindouisme n'existe pas encore comme une religion unique. Et c'est pourquoi je crois qu'il est trompeur d'employer ce terme d'hindouisme ici. Quant à l'emploi du terme brahmanique vis-à-vis de ces darshana, il est problématique pour d'autres raisons. Et en tout cas, je crois qu'on ne peut pas l'employer uniformément pour tous ces systèmes. Je crois que certains peuvent être dits brahmaniques, d'autres non. Alors, je m'arrête un instant sur ce mot de brahmanisme qui prête à confusion parce que, en fait, on l'emploie pour désigner des choses assez différentes. On parle de manière très large de société brahmanique pour désigner la société indienne traditionnelle, société qui est caractérisée par sa hiérarchie en classes, classes qui sont elles-mêmes subdivisées en castes. Et cette société a pour sommet la classe de ceux qu'on appelle les brahmanas, les brahmanes, lesquels sont notamment réputés être les gardiens du Veda, le plus ancien texte sacré sanskrit de l'Inde. Mais un brahman, c'est d'abord tout simplement quelqu'un qui est né dans une famille de brahmanes. En ce sens, le brahmanisme est à la fois beaucoup plus et beaucoup moins qu'une religion. C'est un ensemble de valeurs sociales dominantes dans une société qui est organisée selon ces valeurs, ce qui n'empêche pas cette société de comporter en fait une grande diversité de religions. Et par exemple, un certain nombre de penseurs bouddhistes indiens ont été des brahmanes, au sens où ils appartenaient à une famille de brahmanes. Mais on a aussi tendance à employer ce terme de brahmanisme, et de manière abusive, je crois, pour désigner tout ce qui, dans la culture indienne ancienne et médiévale, n'est pas bouddhique. Ce qui donne l'impression que, dans l'Inde ancienne et médiévale, il n'y a que deux religions, bouddhisme et brahmanisme. Or, ce n'est pas du tout ainsi que les Indiens du passé auraient décrit leur propre situation. Et beaucoup de ceux qu'on veut ranger aujourd'hui sous cette catégorie brahmanique unique auraient été très fâchés de voisiner comme ça avec des gens qu'ils considéraient comme défendant une religion rivale de la leur. Quant à moi, donc, j'emploierais ce terme brahmanique en un sens plus étroit, pour désigner les systèmes qui reconnaissent d'abord et avant tout pour autorité scripturaire le Veda et qui se présentent comme défendant cette autorité scripturaire du Veda, mais aussi les valeurs traditionnelles de pureté et d'impureté qui organisent la hiérarchie sociale de la société brahmanique. Alors parmi les courants qui au premier millénaire de notre ère sont des partisans de l'existence du soi, qui pensent qu'il y a en nous quelque chose de permanent qui constitue notre essence, il y a des mouvements qui sont pleinement brahmaniques en ce sens-là. Il y a d'abord la Mimamsa. Alors, le nom Mimamsa signifie littéralement quelque chose comme l'enquête. Mais ici, il s'agit de l'enquête sur les textes. Autrement dit, il s'agit de l'exégèse. Et cette Mimamsa, cette exégèse, qui se présente comme le cœur de l'orthodoxie brahmanique, est à l'origine une tradition d'herméneutique du rituel védique, une tradition qui a développé un canon de règles d'interprétation du Veda pour résoudre des problèmes qui étaient essentiellement liés à l'exécution des rites prescrits dans le Veda. Mais à l'époque classique, c'est-à-dire autour du milieu du premier millénaire de notre ère, la Mimamsa va se constituer en un système philosophique complet, avec son épistémologie, avec sa philosophie du langage et avec sa métaphysique propre. Parmi les systèmes qui admettent une forme de soi, il y a aussi le Vaisheshika. Alors ce nom de Vaisheshika peut signifier quelque chose comme ce qui distingue, ce qui discerne. On a longtemps présenté, notamment sous l'impulsion de l'indianiste autrichien Frau Wallner, ce Vaisheshika comme une sorte de proto-science physique, comme une sorte de science naturelle qui aurait été complètement détachée de toute considération sotériologique, religieuse, métaphysique. Et il est vrai que le Vaisheshika se préoccupe d'abord de classer, de diviser la totalité de l'étang en catégories ontologiques fondamentales, et il est célèbre en particulier pour son atomisme réaliste. Autrement dit, le Vaisheshika défend, et il n'est pas le seul, l'idée selon laquelle le monde perçu est réel et il est constitué de particules élémentaires. Cela étant dit, Madeleine Biardot, Wilhelm Halbfass, Jan Huben et d'autres encore ont montré que, en fait, le Vaisheshika est profondément brahmanique. Il défend l'autorité du Veda et il a, dès ses débuts, une véritable ambition sotériologique. Il se préoccupe du salut et pas seulement de décrire et de comprendre le monde. Parmi les mouvements brahmaniques, il y a encore ce qu'on appelle le Nyaya. Alors, le nom Nyaya signifie plusieurs choses, mais notamment le raisonnement. Et de fait, le Nyaya s'intéresse d'abord à des questions qui ont trait aux techniques du débat. à la logique et à la théorie de la connaissance, avec une importance particulière accordée à ce qu'on appelle les pramana, c'est-à-dire les moyens de connaissance valides, et nous reviendrons longuement sur ces moyens de connaissance valides. Mais les intérêts du nyaya, là encore, ne sont pas seulement épistémologiques. Le nyaya a pris part à toutes les grandes controverses philosophiques indiennes et il est aussi très préoccupé de la question du salut. D'ailleurs, ce nyaya a beaucoup en commun avec le Vaisheshika, avec qui il entretient une histoire complexe et avec lequel il est intimement associé. Il y a également, parmi les systèmes, les darshanas qui admettent le soi, une tradition qu'on appelle le Vedanta. Le terme Vedanta signifie littéralement la fin, F-I-N, anta, du Veda. Et donc, ça désigne la partie ultime, la partie dernière du corpus du Veda, partie qui est constituée par des textes anciens qu'on appelle les Upanishads. Et c'est aux Upanishads que nous consacrerons la séance de la semaine prochaine. Pourtant, le Vedanta, ça n'est pas le système élaboré par les auteurs des Upanishads. Le Vedanta, c'est bien plutôt une tradition postérieure d'interprétation des Upanishads qui s'efforce de systématiser leur enseignement. Et cette systématisation procède en lisant dans ces Upanishads une sorte de réduction de l'ensemble des phénomènes, avec toute leur multiplicité, leur diversité, leur variété, à une réalité unique, qui est appelée le Brahman, et qui va être identifiée au soi, à l'Atman, mais alors au sens d'un soi universel. Le Vedanta a donc une forte tendance moniste, mais il n'en a pas moins pris des formes diverses, et d'un certain point de vue, toute l'histoire du Vedanta, c'est l'histoire de la question de la réalité qu'on peut encore concéder à la différence phénoménale, à la variété phénoménale, à partir du moment où on accepte que la totalité du réel doit pouvoir se réduire à un principe unique. Alors, à l'intérieur du Vedanta, certains courants, dont le célèbre Advaita Vedanta, l'Advaita de la non-dualité, se sont efforcés de réduire à son degré zéro ce statut ontologique de la différence, alors que d'autres courants qui se réclamaient du Vedanta ont essayé de lui concéder quand même un certain degré de réalité. Alors on vous dira, dans les manuels d'introduction, que le Vedanta est d'emblée parfaitement brahmanique. Il est parfaitement brahmanique puisqu'il interprète les Upanishads, qui forment la partie ultime du Veda, et on vous dira que le Vedanta, eh bien, c'est le pendant de la Mimamsa, puisque tous les deux sont préoccupés d'exégèse védique. On vous dira que le Vedanta, c'est en fait une Mimamsa postérieure, par distinction avec la Mimamsa proprement dite, qui est alors présentée comme une Mimamsa antérieure. Et l'idée, c'est que la Mimamsa antérieure se préoccuperait de l'exégèse, de la partie du corpus védique qui est relative aux rites, donc essentiellement les textes qu'on appelle les brahmanas, tandis que le Vedanta, lui, s'attacherait à la portion ultime du corpus védique qui se concentre sur la connaissance, c'est-à-dire les Upanishads. Johannes Bronckhorst a cependant montré que cette distinction entre Mimamsa antérieure et postérieure est sans doute très tardive. Elle semble apparaître quelque part entre le 10e et le 12e siècle de notre ère. Et en fait, la Mimamsa est centrée sur le rituel autour duquel s'organise l'orthodoxie brahmanique, alors que le Vedanta, lui, a été développé dans des milieux d'ascètes qui s'étaient placés à la marge de la société brahmanique, qui renonçaient à cette société brahmanique, qui se méfiaient du rite et qui lui préféraient une forme de gnose, une quête fondée sur des expériences de conscience, si vous voulez. Et les relations historiques complexes de ces deux mouvements-là sont encore très débattues. Est-ce que, à l'origine, on a une seule tradition brahmanique qui en est venue à se diviser comme ça en Mimamsa et Vedanta, ou bien est-ce que le Vedanta aurait été à l'origine une tradition complètement étrangère au brahmanisme et qui serait venue se greffer progressivement sur le brahmanisme? Quoi qu'il en soit, le Vedanta n'a pris une véritable importance sur la scène philosophique que tardivement, par rapport à la plupart des autres grands courants. Et ce n'est qu'au cours du deuxième millénaire que le Vedanta en est venu, petit à petit, à dominer la totalité du paysage philosophique indien, au point que certaines introductions à la philosophie indienne vous le présenteront comme le paradigme et le sommet tout à la fois de la pensée indienne. En fait, cette hégémonie du Vedanta est très tardive et jusqu'à la fin du premier millénaire au moins, sa contribution aux grandes controverses philosophiques de l'Inde et en particulier à celle sur le soi reste relativement marginale. Non pas que les Vedantines, les représentants du Vedanta, ne s'en préoccupent pas, au contraire, ils se passionnent pour cette question du soi, mais, et c'est très frappant, la plupart des écoles rivales du Vedanta ne leur accordent pas ou peu d'attention. Alors l'une des raisons à cet état de fait assez troublant, et aussi l'une des raisons sans doute de la complexité de la relation entre Vedanta et Mimamsa, c'est que les Upanishads ont mis du temps à acquérir un plein statut scripturaire. Elles ont mis du temps à être canonisées, en quelque sorte, en tant que parole védique proprement dite. Hugo David a montré comment, jusqu'au 7e siècle de notre ère, les Upanishads sont certes étudiés et révérés, mais, du point de vue brahmanique, la parole védique, qui constitue l'écriture proprement dite, est définie comme injonction à effectuer des rites, donc injonction à agir, alors que les Upanishads se présentent comme décrivant le réel et non pas comme enjoignant à l'action. Ça n'allait donc pas de soi que de considérer les Upanishads comme paroles védiques au sens plein, et ça a pris du temps que de leur conférer ce plein statut scripturaire. Alors il y a encore, parmi les darshanas, le Sankhya. Le Sankhya, c'est un système très ancien. Et on débat encore aujourd'hui de ses origines obscures et des premières phases de son développement. Ces premières phases, on les désigne souvent comme le Sankhya épique, par opposition au Sankhya classique, parce que le Sankhya apparaît d'abord dans l'épopée du Mahabharata. Alors, on a fait remarquer depuis longtemps, à raison, que le Sankhya épique et classique va clairement contre un certain nombre de principes brahmaniques. Il y a notamment dans le Sankhya un anti-ritualisme très profond, viscéral, alors qu'une fois de plus, le Veda est d'abord compris comme un corps d'injonction à effectuer des rites. Et le Sankhya est à certains égards beaucoup plus proche du bouddhisme et du jainisme que des traditions brahmaniques. Alors le nom de Sankhya est dérivé d'un mot qui signifie nombre. Donc le Sankhya, c'est le dénombrement ou l'inventaire des principes qui constituent le réel. Et sous sa forme classique, le Sankhya est un dualisme tranché qui distingue d'un côté la conscience, qui est appelée le plus souvent la personne, Purusha, c'est un mot qui est souvent un équivalent pour le soi, pour l'atman, et cette conscience est conçue comme exclusivement contemplative et parfaitement inactive, et elle est opposée à la nature, Prakriti, qui, elle, est parfaitement inconsciente et comprise comme une matière en constante évolution, en constante transformation et donc perpétuellement active. Et selon le Sankhya, la cause de la souffrance, eh bien c'est précisément que le fait que le Purusha confond sa propre essence avec des entités composites et changeantes qui en fait sont toutes des transformations de cette nature inconsciente et agissante. Et ces entités composites et changeantes ne sont pas le soi, lequel demeure, lui, parfaitement inactif et immuable. Alors, quant au yoga, parce que nous voici arrivés au sixième élément de la liste que les manuels vous présenteront comme canonique pour ces darshanas, le yoga est également une tradition très ancienne. Le terme est déjà attesté dans le bouddhisme et le jainisme ancien, mais aussi dans des textes brahmaniques comme la Katha Upanishad ou comme l'épopée du Mahabharata. Et puis, Vers le 4e ou le 5e siècle de notre ère, un yoga darshana, un système de yoga, va être codifié dans un texte qu'on appelle les Yoga Sutras, donc les aphorismes sutras sur le yoga, qui sont attribués à un certain Patanjali. Et pourtant, comme je le disais tout à l'heure, le yoga ne semble pas apparaître avant le 13e siècle de notre ère dans les listes de darshana. Alors comment expliquer cette immense distance temporelle ? On a conjecturé que le yoga aurait d'abord été perçu non pas comme un système, mais comme une discipline commune à divers systèmes. Et il est vrai que le bouddhisme, le jainisme, mais aussi le nyaya et le vaisheshika ont des pratiques sotériologiques qu'ils désignent explicitement comme un yoga. Cela dit, si le yoga n'a pas été compté pendant si longtemps comme un système à part entière, c'est sans doute plutôt parce que le yoga darshana, le système de yoga de Patanjali, se définit lui-même très explicitement comme appartenant au Sankhya. C'est sans doute seulement à partir du 8e siècle que le terme yoga va commencer à désigner ce système de Patanjali comme un système distinct des autres, parce qu'auparavant, il est en fait simplement compris comme un ensemble de techniques sotériologiques qui appartiennent au Sankhya. Alors vous le voyez, certains de ces courants sont pleinement brahmaniques, notamment Mimamsa, Nyaya, Vaisheshika. D'autres le sont clairement beaucoup moins. Et puis il faut ajouter à ces darshanas brahmaniques et, disons, para-brahmaniques, des mouvements qui s'opposent frontalement au brahmanisme et qui récusent l'autorité du Veda, comme le jainisme, évidemment, qui est une religion au moins aussi ancienne que le bouddhisme et qui apparaît dans les listes anciennes des darshanas. Il faut aussi ajouter à la liste des défenseurs du soi des mouvements qui vont élaborer des systèmes philosophiques, proprement dit, plus tardivement que les autres, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du premier millénaire, et qui ont des écritures très nettement distinguées du corpus védique. Et je pense notamment, en disant cela, à deux grands systèmes shivaïtes. Alors il y en a d'autres, mais je pense en particulier au Shaiva Siddhanta et au shivaïsme non dualiste. Alors il y a entre ces deux grands systèmes shivaïtes une opposition doctrinale fondamentale, parce que le Shaiva Siddhanta, en tout cas à sa période classique, est un dualisme de la conscience et de la matière. Alors que le shivaïsme non dualiste, comme son nom l'indique, professe que la matière n'est en fait qu'une manifestation de la conscience et que, en réalité, la totalité des phénomènes n'est qu'une conscience unique. On a longtemps cru que cette opposition doctrinale entre ces deux grands systèmes shivaïtes était aussi géographique, linguistique et historique, parce qu'on pensait que le Shaiva Siddhanta, dualiste, était un shivaïsme du sud de l'Inde, aux écritures de langue tamoule, relativement tardives, tandis qu'on présentait le shivaïsme non dualiste comme un shivaïsme du Cachemire, donc du nord de l'Inde, plus ancien et de langue sanskrite. Les travaux d'Alexis Sanderson ont montré, il y a plusieurs décennies déjà, que c'est là une erreur. Et que le Shaiva Siddhanta, non seulement était déjà présent au Cachemire, lorsque le shivaïsme non-dualiste s'y est développé, mais il y était dominant, et ses écritures y étaient déjà rédigées en sanskrit. Donc vous ne m'entendrez pas employer l'expression de shivaïsme du Cachemire, dont on use encore, mais à tort, pour désigner un shivaïsme exclusivement non-dualiste. Alors ces deux formes de shivaïsme n'ont pas du tout le même rapport à l'orthodoxie brahmanique, parce que, à maints égards, le Shaiva Siddhanta se présente comme parfaitement compatible avec les valeurs brahmaniques et comme les prolongeant d'une certaine manière, tandis que le shivaïsme non-dualiste revendique souvent ouvertement une sorte de renversement systématique des valeurs brahmaniques, et ses auteurs rejettent souvent explicitement l'autorité du Veda. Alors le tableau que je viens de dresser là n'est pas exhaustif, évidemment, mais enfin vous voyez que dans la controverse sur le soi, le bouddhisme est presque seul contre tous dans sa lutte contre l'idée d'un soi, à l'exception tout de même des charvakas ou des lokayatas. Les charvakas sont des matérialistes, selon qui la conscience n'est qu'une transformation transitoire de la matière et rien ne subsiste au-delà de cette transformation après la mort. Alors nous reviendrons dans les semaines qui viennent sur ce qui sépare le bouddhisme de ces matérialistes, parce que, en dépit de leur critique commune du soi, ils ont de très profondes divergences. Mais en tout cas, vous voyez qu'on ne peut pas réduire cette discussion à un affrontement entre bouddhistes et brahmanes, et du côté des partisans du soi, le rapport au brahmanisme varie énormément d'une école à l'autre, et on a une véritable pluralité religieuse. Il y a d'ailleurs d'autres différences très importantes à l'intérieur du camp des partisans du soi. Par exemple, certains défendent une pluralité de soi, pour chaque individu conscient, comme vous et moi, tandis que pour ceux qui vont professer un non-dualisme fort, comme l'Advaita Vedanta ou le shivaïsme non-dualiste, en fait, il n'y a qu'un seul soi pour la totalité de l'univers. Les divergences s'étendent aussi à la manière dont on va concevoir le rapport du soi à l'espace. Est-ce que le soi, c'est une sorte d'entité minuscule qui voyage à l'intérieur du corps? Est-ce qu'il est coextensif au corps qui l'anime? Ou bien est-ce que le soi se trouve partout dans l'univers? Et puis surtout, ces courants ont des manières très différentes de comprendre la relation que le soi entretient avec l'action. Et de ce point de vue, il y a comme une nouvelle ligne de fracture, parce qu'il y a un groupe de partisans du soi qui tient pour acquis que le soi, c'est ce qui n'agit pas. Pour le Sankhya, le yoga et le jainisme ancien en particulier, pour pouvoir se libérer, eh bien, il faut avant tout cesser d'agir. Pourquoi ? À cause du principe dit de la rétribution karmique. Alors, karmique, c'est un adjectif francisé qui est formé sur le substantif sanskrit karman. Et karman, ça veut dire tout simplement l'acte ou l'action. Alors, selon ce principe de la rétribution karmique, toute action, aussi triviale soit-elle, requiert une rétribution, positive ou négative, selon le caractère moralement bon ou mauvais de l'action considérée. Et cette rétribution va prendre la forme d'une expérience plaisante ou déplaisante qui surviendra plus tard, après qu'on a effectué l'action. Mais évidemment, tous les actes commis par une personne ne reçoivent pas nécessairement leur rétribution avant la mort de cette personne. Il y a des affreux qui vivent une existence heureuse jusqu'à son terme, et puis il y a des gens formidables qui meurent dans des circonstances atroces. On suppose donc que la personne doit transmigrer pour que ses actes passés reçoivent littéralement leurs fruits en sanskrit, phala, c'est-à-dire leur rétribution morale. Donc le moteur du samsara, du cycle de la transmigration, c'est ce mécanisme de la rétribution karmique. Or, selon ces courants, pour arrêter le samsara, eh bien, il faut couper le moteur et donc il faut cesser d'agir. Mais voilà, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que notre corps est évidemment constamment engagé dans l'action, respiration, etc. Et puis notre esprit aussi est constamment actif, comme vous le constaterez douloureusement si vous essayez de ne penser à rien, mais à rien du tout. Pendant quelques instants, votre esprit va très rapidement se mettre à battre la campagne et vous penserez à quelque chose très rapidement malgré vous. Donc l'idée directrice, là, c'est que pour nous sauver du samsara, il faut parvenir à cesser d'agir, ou en tout cas, il faut prendre conscience qu'en fait, ce n'est pas nous qui agissons. Il faut cesser de nous identifier à l'agent de l'action, comme nous le disent le Sankhya et le Yoga. Parce que, selon eux, nous nous croyons engagés dans une activité perpétuelle, mais en fait, ce qui agit en nous, ce sont seulement les modifications de la matière inconsciente et en perpétuelle métamorphose, tandis que nous, nous sommes vraiment une pure conscience, parfaitement immuable, qui n'est que le témoin impassible de toute cette agitation. Et donc, pour nous libérer de la douleur et du samsara, il nous faut parvenir à recouvrer la pleine intuition de notre identité avec cette entité impassible. Cela dit, il n'est pas vrai que le soi soit conçu comme inactif dans la plupart des traditions brahmaniques. C'est pourtant une idée qui circule beaucoup dans la littérature secondaire et que vous trouverez jusque sous la plume d'un très grand indianiste comme Johannes Bronckhorst, par exemple, qui expliquait que le shivaïte non-dualiste Utpaladeva définit le soi comme l'agent de toute action, ce qui est parfaitement vrai, et Bronckhorst estimait que c'est là une remarquable exception. Or, Alex Watson a fait remarquer, et a raison, que ça n'est pas seulement un trait du shivaïsme non-dualiste, parce que dans le Shaiva Siddhanta dualiste aussi, le soi est conçu comme jouissant du pouvoir d'agir, y compris dans l'état libéré. Et il faut ajouter à cette remarque de Watson que non seulement les shivaïtes ne conçoivent pas le soi comme inactif, mais pour eux, la libération, ça suppose un acte. Alors dans le Shaiva Siddhanta, il s'agit de l'acte rituel qui va enlever l'impureté matérielle qui souille le soi. Et dans le shivaïsme non-dualiste, ce qui va libérer le soi, c'est certes un événement qui est de nature purement consciente, mais c'est un événement qui n'en est pas moins décrit comme un acte subtil qui est l'essence de toute action mondaine, à savoir la prise de conscience par laquelle le soi va activement se saisir lui-même, s'appréhender lui-même et prendre la mesure de sa liberté totale d'agir. Donc dans les systèmes shivaïtes, il n'est pas question d'un soi inactif. Et en fait, comme Bronckhorst doit l'admettre ailleurs lui-même, la plupart des mouvements brahmaniques, dont le Nyaya, le Vaisheshika et la Mimamsa, considèrent que le soi, c'est l'agent, c'est le sujet qui accomplit toutes nos actions. Le Nyaya et le Vaisheshika vont même s'efforcer, j'y reviendrai, de prouver l'existence du soi à partir du fait de l'action, en disant mais pour qu'une action, quelle qu'elle soit, puisse s'accomplir, il faut qu'il y ait une entité permanente qui en soit l'agent. Parce que agir, marcher dans la rue par exemple, c'est toujours un processus qui va se décomposer en une série d'instants distincts et différents, et ce qui va donner à ces moments et à ces états disparates une unité telle qu'on peut parler de l'action de marcher, et plutôt que seulement une sorte de collection de moments divers et hétérogènes, et c'est justement le fait que c'est la marche d'un tel. C'est le fait que c'est la marche effectuée par tel agent qui est un et qui dure à travers tous ces instants. Alors certes, les philosophes du Nyaya et du Vaisheshika pensent qu'une fois que le soi s'est libéré, il n'agit plus. Il n'agit plus parce qu'il n'a plus besoin d'agir. Il ne lui manque plus rien, et puis il n'y a plus rien sur quoi son action pourrait s'exercer. Il n'empêche que, contrairement au Sankhya, le Nyaya et le Vaisheshika pensent que dès lors qu'il y a de l'action, ce qui agit en nous, eh bien, c'est le soi. Quant à la Mimamsa, je le disais, elle voit dans le Veda un ensemble d'injonctions à agir pour effectuer des rites. Et en sanskrit, ce sont les mêmes mots comme kriya et karman qui désignent l'action en général et puis le rite, parce que le rite, eh bien, c'est l'action par excellence. Par conséquent, alors que certains courants qui sont préoccupés de couper le moteur karmique du samsara ont souligné l'insuffisance, voire la nocivité de l'activité rituelle pour le salut, les représentants de la Mimamsa, eux, ont soit ignoré totalement le problème de la libération du samsara, soit ils ont considéré que on peut se libérer de la douleur, en tout cas, mais, comme le dit leur adversaire bouddhiste Bhavya, on s'en libère exclusivement par le rite, en recourant au rite. Alors, cela dit, il ne faudrait pas croire que la Mimamsa ne s'intéresse pas du tout à la question du soi. même si les représentants de la Mimamsa professent avant tout un ritualisme qui doit permettre une renaissance plus enviable que l'existence présente, plutôt que la fin des renaissances, l'enquête sur la nature du soi est indispensable pour eux aussi. D'abord parce que les Mimamsaka ont quand même accordé une certaine place à l'idée d'une gnose libératrice, mais aussi parce que l'enquête sur le soi doit asseoir la croyance en l'efficacité rituelle du Veda. Pourquoi ? Parce que, comme le dit le grand représentant de la Mimamsa, Kumārila, qui a vécu au 7e siècle, toutes les injonctions védiques sans exception doivent être abandonnées si on met en doute l'existence du soi comme entité permanente. Pourquoi ? Eh bien parce que une personne commandite un sacrifice précisément parce qu'elle espère en tirer après la mort le bénéfice que lui promet le Veda sous la forme d'un au-delà heureux. Mais si rien dans cette personne ne dure et si donc elle a disparu quand survient l'effet promis du sacrifice, eh bien elle ne peut jamais jouir du fruit de l'acte rituel. Donc pour la Mimamsa, l'enquête sur le soi est très importante, précisément parce que pour elle, c'est le soi qui est l'agent du sacrifice. Donc, en résumé, il ne faut pas réduire la question de la libération en Inde à une sorte de quête de l'inaction, l'inaction qui serait propre au soi, parce que la plupart des systèmes brahmaniques classiques voient dans le soi le fondement de l'action mondaine et même rituelle, et les systèmes shivaïtes mettent même l'action au cœur même de l'état libéré. Voilà donc pour ces remarques d'introduction un peu touffues, et je m'en excuse, mais maintenant nous allons pouvoir travailler à les débroussailler dans les semaines qui viennent, et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour commencer à explorer les textes eux-mêmes, et en l'occurrence les Upanishads. Je vous remercie pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.